Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Et je suis actuellement en studio avec le collectif Je veux mon ASH du Fousseret. Mesdames, bonjour.
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 Et accompagné également de la vice-présidente de l'APEDIS Midi-Pyrénées, Laetitia Branciard. Laetitia, bonjour.
Bonjour, merci de nous avoir invités.
Avec grand plaisir. Alors, on va discuter aujourd'hui de choses un peu particulières parce que il s'agit d'un problème que rencontrent certains parents, certaines familles et qui est totalement inconnu des autres. Il s'agit des enfants qui sont multidys. On verra après ce que signifie ce terme multidys, c'est-à-dire qu'on a un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres au sens de l'éducation nationale en particulier, et c'est pour ça que le collectif s'appelle Je veux mon ASH.
C'est cela.
C'est la problématique, c'est quand on arrive, on est parents, déjà on n'est pas tous préparés à devenir parents, et en plus, lorsqu'à un certain moment du développement de l'enfant, on se rend compte que l'enfant rencontre des difficultés, soit sociales, soit scolaires, et on se pose des questions. Alors, j'ai ici deux mamans qui ont été confrontées au problème. Comment ça s'est passé pour vous?
Alors bonjour, moi je suis Emmanuelle, hein, je suis la maman d'un enfant 10. Nous, ça a été une vraie découverte, hein. Les problèmes ont commencé, comme souvent pour beaucoup de parents 10, au niveau scolaire. Donc c'est au niveau de l'école qu'on a commencé à rencontrer des difficultés. Déjà très petit, hein, en petite section de maternelle. J'ai une maîtresse qui m'a alertée, qui m'a dit « Il colle de travers, il déchire tout, il est cochon, il a un poil dans la main ». Je savais que mon fils n'avait pas un poil dans la main. Hein. Donc j'étais un petit peu choquée de cela. Et du coup, il était petit encore, il avait 4 ans et demi. Nous avons commencé à aller voir un spécialiste qui nous a fait part d'une possible dyspraxie. Donc, c'est un trouble de la coordination motrice, entre autres. Et là, nous sommes rentrés dans le parcours du combattant, c'est-à-dire pour détecter exactement ce qu'il avait. Hein, Marie-Laure, tu pourras en parler aussi.
Tout à fait, ouais.
Et là, on rentre dans des bilans chez l'orthophoniste, chez l'ergothérapeute, chez le psycho. Alors déjà, il faut avoir les moyens, hein, parce que ce n'est pas reconnu, à part pour l'orthophonie, par la sécurité sociale. Donc, ça coûte un certain prix. Tous les parents ne peuvent pas se le permettre. Et puis, tout ce parcours, ça peut durer un an, voire plus. Hein. Donc, c'est très, très long. Et là, on découvre qu'il n'y a pas qu'un seul trouble, il y en a plusieurs, en fait. Et là, on commence à se dire qu'on n'a pas, en effet, un enfant standard. Hein. Donc, il y a une période de découverte de tous ces troubles. Je dois vous dire qu'on est assez sidéré au départ, on est assez perdu. Il y a beaucoup de parents qui sont, qui se sentent, un peu perdus, même beaucoup. Et on est obligé petit à petit, c'est un vrai travail hein, pour les familles, de faire un, un lapsus. Il faut faire le deuil d'un enfant dans les normes. Et aussi, il faut faire le deuil d'un écolier standard. Voilà.
Pour vous, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que lorsque vous avez fait cette découverte, on est comme on est désemparé, c'est ça?
Ah oui. Et puis, on passe comme Emmanuelle. On a des problèmes, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est souvent donc détecté par les maîtresses hein, qui nous alertent, qui nous disent son comportement n'est pas bon. Enfin, moi, pour ma fille, hein, c'était donc en cours de récréation où il y avait beaucoup d'agressivité. Et puis en cours, pas l'attention voulue, des bruits, tout qui faisait en fait qui gênait la classe. Et donc en fait moi j'ai été alertée par ces points-là. Et donc, bien sûr, hein, on demande que vous veniez. Les maîtresses, la maîtresse m'a expliqué un petit peu ce qui se passait. Et donc, vous vous retrouvez, il se passe ça, qu'est-ce que l'on fait maintenant? Qu'est-ce que l'on fait? On commence donc à aller voir des spécialistes.
Les personnels de l'éducation nationale, tels que vous les avez rencontrés lors de votre parcours personnel, sont au courant de ces choses-là, sont informés ou sont aussi désemparés que vous?
Non. Pour moi, ils ne sont pas, ils ne connaissent pas du tout ces troubles. Eux, ils alertent par rapport à un comportement de l'enfant, mais ils ne savent pas, ils ne vont pas vous dire « Ah oui, c'est certainement ça ». Non. Ils sont pas du tout formés à avoir dans leur classe des enfants différents, et donc de troubles différents. Donc voilà, on vous parle de comportement, à l'école, en classe, il ne suit pas, ou il n'écoute pas. On vous le pose tel que, et à vous de savoir, enfin de savoir, qu'est-ce que l'on fait, voilà, et vers où l'on va. Donc on peut rencontrer psychologue scolaire, hein. Moi ça a été le cas, et puis ben, après c'est le parcours, comme m'a dit Emmanuel, des différents bilans, psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, bien entendu, et après une prise en charge, mais on ne détecte pas, enfin tout n'est pas détecté tout de suite. Voilà, comme vous a dit Emmanuel.
Ouais, vous parlez de détecter justement avec bon Laetitia, vous êtes la vice-présidente de l'association APDIS Midi-Pyrénées. Vous avez je dirais l'habitude entre guillemets parce que vous avez été aussi confronté à la question et vous avez repéré plusieurs types de troubles de dysfonctionnement. Si c'est comme ça qu'on peut dire, je sais pas.
Oui, disons que moi déjà, je suis aussi maman d'un jeune qui est multidys, hein, qui a une dyslexie sévère. Je vais parler de ces troubles après, une dyscalculie, une dysgraphie, et qui avait très envie d'aller à l'école. Il avait qu'une envie, c'était de rentrer au CP. Il est très très dynamique, pas fainéant, comme dit Emmanuel. Et quand il est rentré au CP, face à l'apprentissage de la lecture, il s'est retrouvé face à un mur. On n'a pas compris. Et l'enseignant qui était en face, très gentil, essayait de comprendre, nous expliquait qu'il comprenait pas pourquoi ce gamin qui avait envie de faire des tas de choses était en déficit total face à l'écrit, aussi bien la lecture que l'écriture. Et on a mis plus d'un an à comprendre. Jusqu'au moment où, en CE1, l'institutrice nous a dit « Mais votre enfant est certainement dyslexique, allez voir un orthophoniste ». L'orthophoniste, effectivement, a fait un bilan de sévérité très rapidement. À l'époque, on pouvait avoir facilement recours à un orthophoniste. Maintenant, le problème qui s'aggrave par rapport aux parents aujourd'hui, c'est qu'ils sont des fois dans 2 ans d'attente avant d'avoir un rendez-vous pour un simple bilan orthophonique d'évaluation des premiers repérages. Hein. Donc, moi, j'ai été confrontée à ça et je me suis beaucoup intéressée aux troubles 10 parce que, par ailleurs, professionnellement, je formais des enseignants sur... il se trouve que j'étais dans une école de formation pour les lycées agricoles où je formais des enseignants sur le numérique éducatif. Et à l'époque, j'ai demandé à ma direction de pouvoir les former sur les troubles des apprentissages. En montant en compétences et au départ en faisant venir des professionnels, je me suis formée là-dessus. J'ai fait venir les médecins du CHU qui sont venus avec plaisir expliquer aux enseignants ce qu'étaient ces troubles-là, qui étaient des troubles invisibles. Donc, c'était difficile de les repérer en tant qu'enseignant, mais pour autant, ils mettaient les jeunes en vraie difficulté parce qu'ils ont des conséquences importantes sur les apprentissages, des conséquences pour la dyslexie face à la lecture, à l'écrit, à l'orthographe, pour la dysphasie face au langage oral qui n'arrive pas à mettre en place correctement. Ce sont souvent des enfants qui vont parler très tardivement. Moi, j'ai rencontré un enfant qui est rentré au CP sans avoir jamais parlé, par exemple, pour vous dire que ça peut être sévère une dysphasie. Et ils ont des problèmes à la fois en expression, mais aussi en réception, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... un stock orthographique très important qui permet de faire coïncider ce que vous leur dites avec leur vocabulaire, pour faire simple. Ils ont aussi parfois des problèmes de dyscalculie, c'est-à-dire la représentation du nombre, la manipulation de faits mathématiques et de représentation aussi, par exemple, si on travaille sur la proportionnalité, ils n'ont aucun sens de ces choses-là. Il y a, comme l'a dit Emmanuel, les enfants qui ont des problèmes des troubles de la coordination, qu'on appelle communément la dyspraxie. C'est des troubles du geste, c'est-à-dire qu'il va y avoir une intention qui est correcte de la part de la personne pour faire un geste, mais il ne va pas y arriver. Il ne va pas réussir à le faire comme on s'y attend. Il n'y a pas d'automatisation des gestes. Et ça peut être sur le geste global comme sur le geste fin. Alors sur le geste fin, on va retrouver cette difficulté au niveau de l'écriture, ce qu'on va appeler de la dysgraphie, que peuvent avoir aussi les dyslexiques, hein, sans être dyspraxiques. Et cette dysgraphie, elle va être très invalidante à l'école parce qu'ils vont pas pouvoir rendre de copies. Elles vont pas être corrigées. Par exemple, mon fils qui était dysgraphique avait des copies rayées au collège avec écrit « impossible à corriger ». Donc, en plus de ne pas être noté, pour l'estime de soi, c'était pas formidable, si vous voulez. Alors, ces troubles, ils sont maintenant bien connus, ils sont étudiés. On a été peut-être en France, au niveau de l'éducation nationale, les derniers à mettre en place des programmes par rapport à ces prises en charge, hein, puisque les premiers textes là-dessus, c'est le rapport Ringard de 2001, de l'inspecteur Ringard et Weber, deux inspecteurs. Et après, il y a la loi de 2005 qui, pour la première fois, a reconnu les troubles cognitifs, que sont les troubles 10, hein, comme handicap. Et du coup, depuis, il y a des prises en charge. Il y a des formations des enseignants aussi, qui sont pas encore très développées, mais qui existent quand même. Et à partir de la rentrée 2022, donc ça c'est nouveau, il y a un nouveau cahier des charges, en quelque sorte, pour la formation des enseignants qui réussissent le concours. Ils auront 25 heures sur l'école inclusive avec le handicap, là où avant ils pouvaient avoir 3 heures, 6 heures, 9 heures. Maintenant, il y aura 25 heures et ça intégrera des dimensions sur le repérage de ces troubles-là. Parce que ce qui est très important pour avoir formé des enseignants, c'est de leur donner des clés pour repérer. Et on peut le faire très tôt. Par exemple, Emmanuel a parlé de la maternelle. À la maternelle, aujourd'hui, quand un enfant est incapable de découper, quand il dépasse systématiquement, quand il peut pas coller une gommette dans un emplacement, on repère qu'il le fait pas exprès. Déjà, aucun enfant ne fait exprès de faire mal, faut le savoir. Ça a été étudié, surtout sur la durée. Et en plus, c'est des gestes qui vont énormément les fatiguer. Il faut savoir que tous ces jeunes qui ont ces troubles-là sont très fatigables et, en général, font 3 ou 4 fois plus de travail que les autres pour avoir des réussites moyennes.
Oui, parce qu'en fait, ils sont obligés de se concentrer plus que les voilà. autres pour atteindre le geste juste ou prononcer la phrase correcte, c'est ça?
Alors, il y a le problème des compétences qui sont pas acquises et pas automatisées. Par exemple, en lecture, quand vous n'avez pas automatisé la lecture, vous allez être toujours dans la situation de décodage-assemblage que vous vivez quand vous commencez le CP, en gros. Et c'est vrai que nous, quand on fait des sensibilisations, on met les gens dans cette situation de décodage-assemblage à travers des petits exercices et on se rend compte que c'est très compliqué puisqu'on peut pas mettre en place de compréhension. Donc, ils vont relire 2-3 fois une consigne pour la comprendre et ils vont pas toujours la comprendre correctement parce que des fois, ils prennent un mot à la place de l'autre, il y a des intrus, il y a des problèmes de lecture. Donc, Il y a des signes de repérage qu'on pourrait mettre en place aussi très tôt pour la dysphasie. Il y a le programme au niveau de l'Île-de-France qui a été mis en place qui s'appelle Parler Bambin. Il y a des chercheurs, des médecins qui ont développé un programme en crèche pour repérer en crèche la dysphasie. C'est-à-dire que quand on met pas en place le langage oral ou quand on le met en place avec des sons immatures, avec une syntaxe qui est pas appropriée, il y a des repérages qui se font très facilement par les professionnels en charge de la petite enfance qui pourraient permettre des prises en charge tôt parce que ça, c'est fondamental. Les collègues autour de la table ont parlé, les mamans ont parlé de repérage et de parcours de combattants. Aujourd'hui en France, une dyslexie, la moyenne nationale d'âge de repérage, c'est 10 ans. Vous vous rendez compte quand vous savez que vous rentrez au CP à 6 ans, que vous commencez la lecture en grande section de maternelle, vous vous rendez compte de la perte de temps, de découragement que vous avez avec des parents qui ne comprennent pas. Il faut savoir en plus que vous êtes dans des familles de 10 où il y a au moins un des deux parents qui est 10. Quelquefois, c'est pas un des deux parents, mais ce sont les grands-parents. Mais ça veut dire qu'on est dans des familles où on n'est pas aussi dans une situation aisée pour mettre en place l'étude le soir, le travail à la maison. Et ça crée des problèmes aussi.
Quand vous dites que dans les familles, il y a déjà des parents, des grands-parents oui. qui sont 10, alors ça veut donc dire que quelque part, alors où il y a
c'est
un caractère
ça,
génétique, et c'est, vous parliez de handicap tout à l'heure, c'est donc une malformation, déformation de quelque chose.
Alors, on va dire que c'est une constitution du cerveau qui est différente. Il y a une organisation du cerveau qui n'est pas celle d'un neurotypique. Et il va y avoir des parties du cerveau qui peuvent être même déficitaires. Par exemple, si je prends la dyslexie. La dyslexie, ce qui est le plus problématique dans la dyslexie, c'est la question de la phonologie. c'est-à-dire la mise en place de sonorisation des lettres qu'on va lire. Dans le lobe gauche du cerveau, on a un petit moteur qui permet de sonoriser les lettres qu'on lit. Je vous fais ça imager. Et il se trouve que ce petit cerveau, chez les dyslexiques, quand ils sont atteints sévèrement, eh bien, ils ne fonctionnent pas ou ils fonctionnent mal. Alors, il y a la rééducation, orthophonique notamment, qui va permettre de trouver des circuits pour les réorganiser, qui va permettre de mettre en place des compensations. Mais il faut savoir que tous ces troubles, ils sont durables et ils vont exister toute la vie. Et même si on a réussi à les compenser, chaque fois qu'on va être fatigué, on va retomber dans les difficultés.
Et par rapport à ça, aujourd'hui, on a l'impression, enfin, de l'extérieur, c'est parce qu'on les découvre plus, c'est parce qu'on les diagnostique oui. plus qu'il y en a plus oui. ou c'est parce qu'il y en a plus?
Non, aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup d'informations sur ces troubles, là, il y en a de plus en plus. Donc, on va inciter les gens à faire du repérage et du diagnostic. Et surtout, à l'école, maintenant, il y a des... Théoriquement, je vois qu'il y a des mamans qui sont embêtées parce qu'elles n'ont pas les aides compensatoires qu'elles attendent, bien sûr. Hein. Mais il y a des lois qui ont fait que depuis 2005, puis depuis la loi de 2013, il y a la mise en place de programmes de plans de scolarisation adaptés qui permettent de prendre en charge ces enfants, comme d'autres enfants qui ont d'autres problématiques, d'autres types de handicap. Et... ça se sait. Il y a, moi, par exemple, je suis dans une association. J'ai eu ce besoin d'être dans une association à un moment donné parce que je me sentais très isolée par rapport aux difficultés de mon fils. Et dans l'association, on a vraiment pu me donner des renseignements que je n'arrivais pas à avoir ailleurs et à me rassurer. Et ça m'a permis aussi de penser que je pourrais trouver des aides, mettre en place des compensations. Par exemple, moi, en tant que vice-présidente, comme la présidente, on accompagne les familles, des fois, quand il y a des réunions au sein de l'école, pour mettre en place ces programmes adaptés, pour donner des conseils, pour faire part de notre expérience. Et moi, plus spécialement dans cette association, avec Emmanuel d'ailleurs, je travaille sur les outils informatiques qui permettent de dépasser certaines difficultés. Aujourd'hui, à l'école, on peut avoir du matériel informatique. Quand on ne sait pas lire un texte, quand on le lit trois fois, on peut avoir un outil informatique qui vous lit tout ce qu'il y a à l'écran et l'écouter. Et on va s'apercevoir qu'un enfant dyslexique, si vous passez par l'oral, il va être très à l'aise, il va vous répondre très facilement aux questions. Si vous l'obligez à passer par l'écrit, il va être en situation d'incompétence, il va rien comprendre.
Je m'adresse aux mamans maintenant. Lorsque vous avez appris, je veux dire comme ça, ou découvert, parce qu'en fait, non mais c'est pas ça, c'est les autres qui vous ont fait découvrir que votre enfant est pas comme les autres.
Tout à fait, c'est ça.
C'est ce que vous, quand vous
débarquez. Ah oui, oui.
Au début, je pense que même quand on est parent comme ça, même une espèce de refus, j'ai pas envie de le voir. Et c'est à ce moment-là que se met en place, je dirais, toutes les questions. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête?
Mais pour moi, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, parce que moi, ma fille est quand même suivie depuis 2017, mais il n'y a que maintenant, hein, on va dire que vraiment, je comprends ces troubles 10, depuis que j'ai rencontré, en fait, l'association. Parce que jusque-là, les différents intervenants m'ont expliqué des choses, oui, mais ne m'ont pas dit, votre enfant est multi-10. Et voilà, renommer ces troubles 10 et m'expliquer tout ce qui vient, enfin tout ce qui provient, toutes les difficultés. Donc moi, ben jusque-là, oui, elle avait des problèmes de comportement, d'attention, oui. Et donc là, depuis début d'année, oui, on va dire, ben là, oui, j'ai bien compris que quand même c'était important, enfin plus important peut-être que ce que je pouvais penser.
C'est important pour vous, d'une part, pour l'avoir compris.
Voilà, hein, tout à fait.
Et deuxièmement, c'est important aussi pour mieux être en relation voilà. avec votre enfant, d'accord.
Voilà, c'est ça. Donc, enfin, moi, ça, c'est mon cas. Je pense qu'il y a d'autres parents, malheureusement, qui vont avoir le même parcours que moi. Et donc après, mais quand on prend bien connaissance, on se dit, comment on va faire? Enfin, comment on va faire? Donc, d'où toutes ces aides Et d'où une association de ce type, c'est quand même bien parce que elle vous ouvre les yeux totalement. Alors que quand même, moi c'est ce que je répète, on a eu un parcours du combattant, des diagnostics, des bilans, tout ce que, et on ne vous a pas fait ressortir l'essentiel.
Parce que tu disais aussi, Marie-Laure, lors d'une réunion qu'on avait eue, c'est que souvent, les bilans orthophoniques ou autres sont assez durs à lire parce que c'est dans un vocabulaire très médical, très professionnel.
Ça. Ouais.
Et voilà, notre compréhension...
On ne comprend pas tout.
Voilà. Mmh. Hein.
On ne nous les explique pas. Moi, j'ai reçu un bilan du centre référent du langage 3 mois après que mon fils ait passé deux journées d'exploration. Je l'ai reçu par la poste et on a dû se l'approprier tout seul. Alors, à l'époque, il n'y avait pas toutes les informations sur Internet. Je vous avoue qu'on était un peu démunis. Et quand on l'a amené à l'école, l'école a assez mal pris ce bilan qu'ils comprenaient pas non plus et pour lequel on faisait des tas de préconisations sans les avoir associées ni préparées. Vous voyez, c'est un petit peu la difficulté des familles.
Emmanuel, justement, aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à des parents qui se posent des questions?
Alors, surtout que faut passer le cap de l'incompréhension. Hein. C'est important. Et il faut aussi se dire que ce n'est pas l'enfant qui a un poil dans la main ou ne veut pas travailler ou est pénible ou c'est pas forcément de sa faute, hein. Donc c'est surtout avoir un dialogue avec l'enseignant si cela est possible, faire détecter les troubles auprès des médecins référents, avoir des bilans appropriés, se faire aider par des gens comme certaines associations. Et aussi, ce qui est un petit peu complexe dans ces troubles 10, c'est que chaque enfant a son trouble particulier. Il va pas y avoir, n'est-ce pas, Laetitia, un trouble standard.
Oui, chaque enfant peut être... sont associés, vu que ces troubles sont associés, ça va donner des composantes différentes. Quoi.
Différentes, sur le cas.
En fait, c'est une espèce de cocktail de différents troubles. Et chaque enfant est unique.
Chaque
aussi
enfant peut avoir exactement. C'est ce qu'ils nous ont expliqué.
Le dernier conseil que je donnerai aux parents, c'est de s'accrocher, dans la mesure où on le peut, parce que ça demande beaucoup de temps, énormément d'énergie. Il y a beaucoup de parents qui sont très fatigués. Et si on ne croit pas en son enfant, l'enfant, il aura du mal. Il faut vraiment que le parent soit en appui. C'est primordial pour le développement de l'enfant.
Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos familles, hein, mais dans le cas de fratrie où il y a des enfants justement qui sont différents, ça se passe comment?
Alors, nous, on est mal placés deux, puisque...
Nous sommes très mal placés, mais Laetitia peut en parler.
On n'a qu'une,
puisque... Non, je ne peux pas en parler parce que j'ai deux enfants qui ont 15 ans de différence. Ah oui. Alors, notre présidente a 4 enfants, multi-10, qui ont toutes les composantes des 10. Elle peut faire une présentation à partir de ses enfants. On n'a pas parlé, ou très peu, puisque vous avez parlé de concentration, de troubles associés, que sont les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, de toutes les fonctions exécutives qui posent d'énormes difficultés à l'école, hein, parce qu'il faut se concentrer, il faut avoir toute son attention pour faire tous les apprentissages. Des fois, se rajoute de l'impulsivité par rapport à ces problèmes-là, des problèmes aussi d'hyperactivité. Et donc, oui, pour parler de ces enfants multi-10, eh bien, il y en a qui ont toutes ces problématiques. Et là, c'est très compliqué. Certains, donc, on connaît beaucoup de parents, souvent des femmes, hein, il faut quand même le dire, qui arrêtent de travailler.
Voilà.
Qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants, au moins pendant qu'ils sont au primaire. Et l'échelon le plus difficile, c'est le collège.
C'est
le collège, c'est vraiment... On dit aux familles, tenez le coup, il y a une vie après le collège, vous allez voir.
Tout à fait raison, hein, parce que moi, les très grosses difficultés, c'est depuis l'entrée en sixième, donc en septembre. Là.
D'autant plus que qu'on sait très bien que les collégiens ne sont pas toujours très tendres les uns avec les autres.
Non, c'est cela. Voilà, c'est ça. Mais moi, je reviens juste à ce qu'a dit Mme Brancière, oui, les troubles du comportement, là, important. Hein. Oui, alors ça, hein, dans les établissements scolaires... Hein, on vous fait passer, enfin oui, vous avez donc un enfant avec des problèmes. Bon ben, on vous dit, oulala, vous allez en baver, hein. Mais on ne cherche pas en fait, à dire, est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce que l'enfant n'a pas quand même un trouble? Déjà, du fait qu'il en a déjà quelques-uns, donc que celui-ci se rajoute. Non, non, il ne cherche pas du tout hein, à comprendre. Alors déjà, nous, on ne comprend pas tout par an. Et donc, quand on est dans un établissement, bon, moi, j'ai une enfant qui a un trouble du comportement, en plus des différents troubles 10. Ben, donc, il y a eu quelques soucis au niveau du collège. Et donc, ce que l'on m'a seulement dit, c'était que prochain débordement, c'est l'expulsion définitive du collège.
D'où la création de votre collectif aujourd'hui.
Voilà.
Un collectif. C'est ça. Je veux mon ASH sur le Fousseret. Avec deux objectifs, si je résume bien la situation. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission, soyez rassurés. C'est premièrement de pouvoir dire aux parents de ne pas rester seuls.
Voilà.
D'entrer en contact avec ou un collectif ou une association comme la PEDIS.
Il y a plusieurs associations sur la région, sur la dysphasie, sur la dyspraxie. Nous, on est sur la dyslexie plutôt, mais on n'a que des familles multidys. Donc, il faut se regrouper.
Oui.
Il faut savoir qu'une association comme la nôtre siège dans les CDAPH. On est représenté au niveau de la Fédération française des 10, au Conseil national sur le handicap, aux défenseurs des droits. Donc, on arrive à faire remonter des dossiers qui sont parfois compliqués.
CDAPH, tu peux nous expliquer?
Alors, c'est la commission de l'autonomie de la maison du handicap, où on va prendre des décisions par rapport à des plans de compensation qu'on va mettre en place pour des enfants ou des adultes.
Donc, je répète, les parents, ne restez pas seuls, entrez en
surtout,
contact.
Ouais.
Pour rentrer en contact, je fais quoi? Je vais sur Internet, je cherche quoi?
Alors, donc, on a ouvert une petite adresse mail, hein, tout simple. Donc, jeveuxmonaesh.com, hein, c'est ça?
@gmail.com.
Voilà.
jeveuxmonaesh@gmail.com.
Voilà. Donc, si des parents veulent nous rejoindre. Pour que l'on soit plus nombreux.
Alors, nous insistons, c'est une démarche qui est bienveillante, évidemment. Mais qui est déterminée. Voilà.
Laetitia Brossiard, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je pense que vous n'avez pas eu l'occasion de tout dire aujourd'hui. Loin de là.
C'est clair.
Mais c'est une première approche et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir une prochaine fois.
Si vous le souhaitez.
Pourquoi pas. Et puis donc encore une fois, l'autre chose que je retiens également, c'est que les enfants ne le font pas exprès.
Voilà.
Aucun
enfant ne se met dans cette situation. Il faut savoir que pour eux, ils ont une estime de soi qui est très, très faible. Ils ont beaucoup d'angoisse. Beaucoup sont déscolarisés. On a fait une enquête au niveau de la Fédération française des 10 qui montrait que beaucoup étaient harcelés, qu'il y avait de la violence à l'école envers ces troubles. Et nous, dans notre association, sur 450 familles, on en a 80% dont les enfants en primaire vont voir des psychologues ou des psychiatres parce qu'ils font de la dépression nerveuse. Donc c'est quand même il y a derrière un problème de santé publique qui est très important.
Encore une note positive, rassemblez-vous, mettez-vous ensemble pour pouvoir prendre connaissance du problème et partager vos expériences toutes ensemble et tous ensemble, parce que les papas sont concernés aussi,
évidemment. Et il y a plus de 10 chez les garçons que chez les filles, on dit qu'il y a 4 garçons pour une fille.
Mesdames, merci pour ce partage
merci
en tout cas,
vous.
Et puis
merci
bah, écoutez, à bientôt peut-être.
Au revoir.
Il y en avait du vent dans cette tête en friche. Le maître, le servant, le chasseur et la biche. Ce relayer profane, le berceau de mon crâne. À grands coups de butoir, inculquent leurs histoires. De règles en copie, de margent théorème. Du jacassement des pies aux branches du barème. Ils mirent les moyens, je finis par les croire. Vénérable doyen que j'avais dû savoir. Pourtant, quand vient le soir, je redeviens l'ignare. On n'apprend pas des livres à vivre. Quel quelques douces promesses pour adoucir les corps, les bonnets de la naisse pour bien tenir le mort. Pour couper l'horizon, on planta une clôture autour de la raison, on fit une bordure de notes en mesure de blâmant classement, projetées en pâture au fond du jugement. On s'est donné du mal pour briser, détruire la force originale qui rêvait de jaillir. Alors, quand vient le soir, je redeviens l'ignare. On n'apprend pas des livres à vivre. Ainsi, lorsque plongé dans les bras du réel, sans règles, sans cahier, sans ligne, sans modèle, remonte cette angoisse nichée au fond du bide, l'enfance faisant place à ses premières rides. Et cette voix si douce et pourtant si cruelle, qui en ses bras me pousse à me mettre à nu, elle semble venir me dire comme pour me hanter.
Ainsi donc de l'amour, c'est tout ce que tu sais.
Cette voix encore et cette voix toujours, c'est elle qui me mord à chaque carrefour. Lorsque l'inattendu bondit avec défiance à la gorge tendue de mon inexpérience. Et chaque fois alors c'est la même rengaine, les pardons que j'implore, les regrets que je traîne, des sourires, des naissances, aux larmes des défunts. Je déplore l'impuissance de ne comprendre rien. Alors, quand vient le soir, je redeviens l'ignare. On n'apprend pas des livres à vivre. Alors, quand vient le soir, je redeviens l'ignare. On n'apprend pas des livres